France Inter.
France Inter. Le 18-20. Fabienne Saintès.
Nous sommes heureux d'être là pour le téléphone sonne et faire ensemble le bilan de cette journée du 10 annoncée de longue date. Une journée qui a bougé au fil des semaines, vous le savez, elle a commencé très citoyenne, peut-être façon gilet jaune, en tout cas c'est comme ça qu'on la lisait. Et puis elle a rallié les partis de gauche essentiellement, les syndicats aussi. Elle s'est également déroulée, et ça c'était pas prévu, le jour de la passation de pouvoir, François Bayrou, Sébastien Lecornu, c'était pas prévu au départ et on verra si ça s'entendait dans les cortèges. Au final, 175 000 manifestants. Le pays n'a pas été bloqué, mais il a fallu enjamber beaucoup de manifs pour aller d'un point à un autre. Multitude de blocages, rien de stratégique cependant. Pour une journée de mobilisation certes atypique, ça c'était prévu, atypique mais qui a aussi eu son lot de manifestants habituels, j'allais dire, et de heurts habituels aussi, hélas, avec les forces de l'ordre. Alors est-ce qu'on peut déjà en tirer une forme de conclusion? Est-ce qu'on peut mieux dessiner ce mouvement? Est-ce qu'il a été le début de quelque chose? Vous allez nous le dire et nous en discuterons bien sûr avec nos invités. Vous allez surtout nous dire si vous y étiez dans votre ville, grande ou moyenne, ce que vous avez dit dans les cortèges, ce que vous avez entendu, ce que vous avez écrit sur vos pancartes. Vous nous direz aussi si vous êtes resté chez vous, comme le préconisait le premier mot d'ordre, se confiner volontairement, ne pas consommer. Vous nous direz si, au contraire, vous ne vous êtes absolument pas reconnu dans ce mouvement et pourquoi. Vous nous direz quand même ce qui vous met en colère et comment vous l'exprimez. Venez nous raconter votre journée à vous. Le standard et le WhatsApp, bien sûr, sont ouverts et on a vraiment envie de vous entendre. C'est le téléphone sonne, soyez les bienvenus.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Christian, vous êtes le premier et vous êtes le bienvenu. Vous êtes à Montpellier. Bonsoir à vous.
Oui, bonsoir.
On vous écoute.
Oui, écoutez, je suis Christian Puech, l'explorateur écologiste. Voilà, donc nous, avec mon association Témoins au bout du monde, nous avons participé à la manifestation.
Très bien. Et alors, une manifestation qui ressemblait à quoi? Vous y avez entendu quoi? Vous étiez combien?
Oui, écoutez, donc c'était d'une grande diversité de manifestants de tous âges, et quelques syndicats, en particulier des jeunes, et des jeunes qui avaient des problèmes dans leurs études. Alors, il y avait entre 8 et 10 000 personnes. Vraiment, la place de la communauté était couverte de monde. Hein, voilà. Donc, les slogans sont tout à fait édifiants. Hein. Alors, un des premiers slogans, c'était « De la fosse, tu es foutu, le peuple est dans la rue ».
Ok.
Donc, voilà, de la fosse, c'est
donc,
le maire de
slogan local, hein.
Voilà, tout à fait. Donc, il y avait beaucoup de journalistes étrangers. Moi, j'ai parlé avec un journaliste espagnol et italien. Voilà.
D'autres, et pourquoi vous y étiez, vous, Christian, dans la manifestation? Vous y allez pour dire quoi?
Alors, vous allez comprendre. Nous, moi, depuis plus de 35-40 ans, on se bat pour le climat. Hein. On lutte contre pour le climat et pour la défense des peuples autochtones.
Okay.
Bon. Or, nous assistons actuellement au déracinement du monde. Voilà. Et j'ai été sélectionné par une trentaine de scientifiques pour seul français, scientifique étranger, donc brésilien, français, espagnol et même africain, donc pour réaliser à la Sorbonne une conférence.
D'accord, mais pardon, excusez-moi Christian, j'aimerais qu'on revienne à la manif. Je voudrais savoir pourquoi vous étiez dans la manif aujourd'hui à Montpellier, s'il vous plaît.
Eh bien, madame, parce qu'on n'arrive pas à se faire entendre.
Ok. Sur la question du climat, donc.
Il faut être connu dans le monde entier pour qu'on arrive à se faire entendre. C'est la première fois, madame, en 40 ans, que je passe à France Inter. Voilà, c'est tout. Alors que je représentais les Indiens d'Amazonie aux Nations Unies, etc. Je ne sais pas pourquoi, mais écoutez, je vous en remercie. C'est un grand honneur. Il n'est jamais trop tard.
Bah écoutez, on est content de l'avoir fait. Merci beaucoup, Christian. Merci de votre témoignage pour discuter ensemble jusqu'à 20h de cette journée. Donc, autour de la table, ici, il y a Victor Delage. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes le président de l'Institut Terram, qui est un think tank dédié à l'étude des territoires. Et on verra ce qui s'est passé effectivement en dehors des grandes villes et moyennes. Aujourd'hui, il y a Rémi Lefebvre qui est avec nous également. Bonsoir.
Bonsoir.
Professeur de sciences politiques à l'Université de Lille. On remercie nos amis de ICI de vous accueillir. Maxence Lambrec est là avec nous. Bonsoir Maxence.
Bonsoir Fabienne.
Chef du service politique de France Inter. Maxence, parce qu'on a envie de savoir s'il y a eu des collusions, j'allais dire, entre cette journée d'aujourd'hui et puis la passation de pouvoir qui a eu lieu en même temps. Avant cela, j'aimerais votre avis à tous les deux. Peut-être Rémi Lefebvre, pour commencer, sur ce que... En fait, je trouve ça intéressant ce que décrit Christian. Il parlait de diversité tout à l'heure, il parlait beaucoup de jeunes. Lui, il y va pour une raison très précise. Et au fond, Rémi Lefebvre, c'est peut-être assez symptomatique des manifestations d'aujourd'hui, 10 septembre ou pas. Chacun y va avec sa revendication dans son sac à dos, sa propre revendication dans son sac à dos.
Oui, surtout que ce mot d'ordre du 10 septembre était particulièrement flou et plastique. C'est un mouvement qui est né de manière assez stupéfiante sur les réseaux sociaux à travers une vidéo virale, d'ailleurs construite sur l'IA, donc le 11 juillet. Mm-hmm. Et en fait, le mot d'ordre au départ était très très large. C'était « on arrête tout, pas pour fuir, pour dire non, confinement du peuple, silence total, résistance pacifique ». Donc c'était même « on reste chez soi, on bloque tout ». Et puis au fil des semaines, jusque depuis mi-juillet. C'est vrai que les revendications du mouvement ont évolué. Très clairement, le mouvement s'est marqué à gauche, hein, ouais. À la différence des gilets jaunes. Au départ, il y avait un flottement sur le centre de gravité. Et bon, globalement, les revendications, c'était plutôt l'austérité budgétaire, le rejet du budget Bayrou, qui finalement ne passera pas puisque il n'a pas il est parti. Et donc effectivement, globalement, un refus de l'austérité budgétaire, mais aussi, vous avez raison, ça a agrégé tout un ensemble de mécontentements de la part des jeunes, mais aussi l'idée qui est à mon avis sous-jacente à beaucoup des mots d'ordre de cette manifestation, d'un sentiment de mal représentation et le sentiment d'une offense démocratique, le sentiment de ne pas être représenté par les partis notamment.
Est-ce que vous avez le sentiment, Rémi Lefebvre, que depuis la mi-juillet, le fait que, effectivement, on l'a beaucoup dit, les partis de gauche, pardon, soient entrés dans le mouvement ainsi que les syndicats, et que derrière, en plus, il y ait le passage politique, la chute de François Bayrou, le nouveau Premier ministre, est-ce que vous avez l'impression que ce qu'on a vu aujourd'hui est très différent de ce qu'on aurait vu, en gros, si les choses s'étaient passées il y a un mois, quoi, y compris avec les slogans dans la rue?
Je sais pas si c'est lié au fait qu'effectivement, par exemple, la France Insoumise a soutenu très très précocement le mouvement, mais c'est vrai que, alors il faudra regarder plus précisément ce qui s'est passé aujourd'hui, mais c'est un mouvement, finalement, la France n'a pas été bloquée, et c'est un mouvement beaucoup plus classique qu'on aurait pu le croire au début, et qui a essentiellement constitué des manifs. Il n'y a pas eu énormément d'actions de blocage, il y en a eu, mais la France n'a pas été bloquée, et globalement, peut-être que ce qui a participé à ce défaut d'élargissement d'un public peut-être éloigné de la politique, c'est effectivement, et ça a été très bien montré par une note de la Fondation Jean Jaurès, que effectivement le centre de gravité des gens qui étaient sur les listes était très à gauche à 70%. Et donc c'est un mouvement social finalement assez classique qui a un peu renouvelé les modes d'action, mais qui s'inscrit plutôt dans un imaginaire traditionnel de mouvement de gauche.
Victor Delage, je citais le chiffre tout à l'heure, 175 000. Si on se reporte 7 ans en arrière, le premier jour des Gilets jaunes, il n'y en avait pas beaucoup plus ou à peine, enfin c'était un chiffre à peu près similaire. En revanche, la vision qu'on avait de la France, et notamment des territoires, qui est votre sujet d'étude, si je puis dire, était très différente parce qu'on a vu émerger les ronds-points à ce moment-là. Là, c'est intéressant, Rémi Lefebvre parle de, finalement, manifestation classique, et c'est peut-être effectivement l'image qui nous vient, parce qu'on n'a pas beaucoup vu de territoires, on voit les villes moyennes, on voit les grandes villes, mais il n'y a rien qui remplace les ronds-points d'une certaine façon. En tout cas pour
l'instant. Clairement, on a plus le sentiment d'ailleurs d'être sur une manifestation politique que sociale. On parlait de la sociologie un petit peu de ce mouvement tout à l'heure. Effectivement, il y a beaucoup de jeunes qui sont plutôt bien diplômés, qui ne vivent pas dans la précarité, au contraire du mouvement des Gilets jaunes, et qui, comme ça a été dit à l'instant, sont très politisés. Ouais. Et qui sont prêts d'ailleurs, qui revendiquent pour 44% la violence pour arriver à leur fin. C'est plus du double par rapport à la population française. Donc c'est pour ça que je pense qu'il faut aujourd'hui faire un petit pas de côté par rapport à tout ce qu'on a répété. On parlait d'une France insurrectionnelle, que les Français voulaient en découdre. Je pense que c'est important de bien faire la distinction entre la foule et le peuple. Parce que,
comme dirait Victor Hugo.
Tout à fait. Parce que la foule, elle est multiple, avec une volonté, avec plusieurs volontés pour le coup. Et puis surtout, ça reste une fraction. Ça reste une fraction qui peut disparaître aussi vite qu'elle apparaît. Là où justement, le peuple, on est plus sur un corps politique qui existe tant que la démocratie garde un genou à terre.
Mais est-ce que ça veut dire, et je poserai aussi la question à Rémi Lefebvre, est-ce que ça veut dire que c'est raté dans le sens où c'est pas du tout ce à quoi peut-être aspirer ceux qui ont initié ce mouvement du 10 septembre? Est-ce qu'on emploie le mot c'est raté parce que finalement c'est très classique, et donc c'est pas quelque chose de classique comme ça qui se tire dans la durée?
On peut dire qu'effectivement, par rapport à ce qui était annoncé, ce qu'on répétait, on est sur quelque chose d'assez éloigné, il n'y a rien de singulier, comme vous venez de le dire. 175 000 manifestants, c'est 3-4 fois moins, par exemple, si on compare à ce qui se passait lors de la question des retraites. 800 actions qui ont été portées, moins de 500 interpellations, donc on n'est vraiment pas sur des chiffres qui changent de d'habitude. Néanmoins, vous l'avez rappelé, il faut faire très attention parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. On n'avait pas été prudent lorsque le mouvement des Gilets jaunes avait émergé. On a bien vu ce qui s'était passé après.
Je n'ai pas oublié que j'allais vous poser la même question, Rémi Lefebvre, mais je voudrais me tourner vers Maxence Lambrecq avant. Moi, je voudrais savoir comment on l'a lu cette journée au pouvoir aujourd'hui. Encore une fois, il y a cette concomitance, passation de pouvoir ce matin à midi, très courte d'ailleurs.
Une drôle d'image.
Exactement, drôle d'image. Et ensuite, on voit un nouveau Premier ministre tout frais moulu aller au centre de crise avec le ministre de l'Intérieur, mais démissionnaire. C'est quand même une journée un peu bizarre.
Oui, alors au gouvernement et aujourd'hui, on surjoue un peu le soulagement en se disant c'est bon, c'est exactement le cliché, la caricature, en gros, d'un mouvement de la France insoumise qui dérape avec que des bloqueurs. Et ça peut même nous aider, puisque la manifestation du 18... Donc le 18 septembre, journée intersyndicale, ils sont d'ailleurs assez soulagés que les syndicats reprennent un peu le flambeau et que le 18 septembre, ça soit bien organisé avec des cortèges et une intersyndicale qui rationalise et qui contient un peu ce mouvement qui aurait pu déraper. Et potentiellement, le 18 septembre, les gens auront vu que c'était le bazar le 10... Ils n'auront pas forcément envie de venir défiler le 18, parce qu'il y aura encore les mêmes jeunes qui viendront brûler les poubelles. Donc ils sont soulagés de ça, et puis ils ont bien vu que ça n'agrégeait pas autant que ce qu'on pouvait imaginer en juillet, et que ça reposait sur une base qui a toujours été là, les 1er mai, qui a toujours été là. Donc...
Vous croyez qu'ils en ont eu peur, Maxence, ou pas? Parce qu'on a vu très en amont Bruno Retailleau, qui a beaucoup serré les forces de l'ordre, pareil, on l'a vu aujourd'hui d'ailleurs dans la rue.
Faut dire que le mouvement a été en effet très contenu tôt ce matin, et ça a joué aussi sur la dynamique de la journée, c'est-à-dire qu'aucune action de blocage n'a vraiment été effective, efficace. Bruno Retailleau a mis 80 000 forces de l'ordre, ce qui est quand même un chiffre assez considérable. Au départ, on se demandait à l'Élysée comme à Matignon ce qui pouvait bien se jouer derrière tout ça, si ça n'allait pas agréger bien plus large. Et en effet, du RN à LFI, finalement, le fait que Jean-Luc Mélenchon se soit mis dans la danse et appelé à sortir dans la rue, ça a fait sortir une partie des électeurs de Marine Le Pen et de Jordan Bardella, et ça a renfermé à ce qui a été assez... assez courant ces dernières années, c'est-à-dire un mouvement de gauche radicale avec une forme d'expression radicale aussi.
Je voudrais justement qu'on aille les regarder, ces manifestants. Je voudrais qu'on aille à Rouen rejoindre Emmanuel Anison qui nous y attend. Bonsoir.
Bonsoir.
Emmanuel, vous êtes grand reporter au Nouvel Obs. Et si on a eu envie de vous parler, c'est parce que vous suivez depuis un moment, vous avez déjà écrit depuis la fin du mois d'août à Rouen, où vous êtes aussi aujourd'hui, la manière dont ce mouvement est en train de bouger et s'est mis en place. Vous avez commencé votre journée dans le fameux rond-point des vaches, qui est occupé depuis les Gilets jaunes, en fait. Et moi, je voudrais savoir, puisque vous avez ces deux visions-là, qu'est-ce que vous avez vu aujourd'hui, vu peut-être de très différent de ce qui existait il y a 7 ans au même endroit?
Alors déjà le nombre, parce que le premier jour du rond-point des vaches, il y avait 700 gilets jaunes, là il y avait une centaine de personnes. Une différence dans le profil sociologique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui il y avait des gilets jaunes, ceux qui sont là depuis 7 ans, il y en avait quelques-uns qui revenaient aussi, qui n'était plus là depuis quelques années, mais il y avait surtout beaucoup aussi de militants de gauche, de jeunes activistes, écolos, radicaux, des syndicalistes aussi, et de manière plus globale, beaucoup de sympathisants LFI. Donc il y avait un mélange qui était assez inédit, qui n'existait pas il y a 7 ans, parce qu'il y a 7 ans, c'était beaucoup plus homogène, enfin il y avait un milieu, un sociologique gilet jaune qui était plus marqué, mais en tout état de cause, effectivement, on n'assistait pas à la même chose.
Mais est-ce que ce mélange a pris, en fait, parce qu'en vous lisant, Emmanuel Anison, notamment dans les AG auxquels vous avez pu assister, on se rend bien compte aussi que quand on est un militant très aguerri, on prend la parole plus facilement, on s'exprime, on met en avant des idées, pour les gilets jaunes, c'est parfois plus plus compliqué, c'est pas ce qu'ils font le plus régulièrement. Et donc, on a eu le sentiment à un moment que l'un écrasait l'autre. Est-ce qu'au fond, aujourd'hui, sur le terrain, les choses étaient bien réparties et les revendications bien réparties ?
C'est-à-dire qu'à Rouen, il y a eu le matin rond-point où les gilets jaunes avaient la main, et ils ont eu la main sur le rond-point. C'est eux qui ont organisé le blocage qui d'ailleurs a marché, c'est-à-dire qu'ils ont bloqué les camions, comme ils l'ont fait il y a 7 ans. Et donc, voilà, ils avaient la main. C'est eux qui tenaient le micro, l'hygiaphone, et il y avait un ton gilet jaune. Ensuite, quand il y a eu la manifestation cet après-midi, les gilets jaunes sont venus en manif, mais cette fois-ci, c'était clairement organisé avec par la gauche, par les militants de gauche, et avec un ton d'ailleurs très différent, des slogans beaucoup plus liés au capitalisme, et moins de Macron dégage et plus de jeux de mots sur le capitalisme et aussi sur l'écologie.
Est-ce que, en termes de nombre d'ailleurs dans la manifestation, à Rouen, vous étiez combien ? Enfin, ils étaient combien ?
Alors, on dit, je crois, autour de 6 000. Okay. Il me semble que c'était... Alors, on ne peut pas dire que ça n'est rien, mais ça n'est clairement pas un raz-de-marée. Et moi, ce que j'avais un peu senti déjà avant et ce qui semblait se confirmer, en tout cas aujourd'hui, c'est que ça ne rassemble pas au-delà... on va dire de certains gilets jaunes qui ont envie de rester sur le terrain, mais surtout d'une gauche sympathisante LFI, pour résumer. Il y a beaucoup de jeunes, hein. Ça c'est quand même marquant. C'est quand même, je pense, un signe qu'on peut prendre en compte, parce que c'est toute une nouvelle génération qui va vouloir se faire entendre. Ça se sent. Mais ils vont pas faire la révolution à 6 000.
Entre ceux que vous avez rencontrés dans les AG, Emmanuel Anison, et ceux que vous avez vus là, est-ce que, entre-temps, encore une fois, il y a eu un Premier ministre qui s'en va, un changement de Premier ministre, etc. Est-ce que vous avez vu bouger les slogans également, ou pas du tout, en fait ?
Non, les slogans ne bougent pas. Oui, c'est-à-dire qu'il y aurait sans doute plus eu des slogans autour des mesures budgétaires envisagées par François Bayrou. Mais globalement, c'est ce qu'il disait à l'AG, c'est-à-dire que le but n'est pas les ministres qui se suivent et se ressemblent. Le but, c'est de faire dégager Macron, pour reprendre l'expression qu'on entend le plus, hein, et qu'on lit le plus dans les slogans. Et puis, plus au-delà, d'envisager un autre système politique, une autre république, etc., etc.
Et quand vous les... Alors, je ne sais pas si vous aviez ce sentiment-là il y a 7 ans, d'ailleurs, hein, sur le rond-point des vaches, mais quand vous les voyez aujourd'hui, est-ce que vous dites ce mouvement-là est en train de faire germer quelque chose et peut se poursuivre, ou est-ce que le sentiment que vous en avez quand la journée se termine, c'est que c'était un one-shot, quoi ?
Alors, je pense qu'il faudrait être très imprudent pour être certain de ce qui va se passer. Vraiment, c'est difficile. En tout cas, ce qu'on ne sent pas, et ils étaient d'accord, ils le reconnaissaient, les gilets eux-mêmes aujourd'hui, il n'y a pas cet élan qu'on sentait, espèce de vague incontrôlable avec une masse de personnes qui avaient occupé immédiatement ces ronds-points, avec des profils complètement inédits. Voilà, on n'a pas ça aujourd'hui. Aujourd'hui, on a quelque chose de beaucoup plus classique dans les profils, pardon. Si ce n'est cette jeunesse qui est quand même en nombre très importante.
Merci beaucoup, Emmanuel Anison. Je sais que je dois vous lâcher. Je vous remercie beaucoup sur votre rond-point des vaches du côté de Rouen. Je vais revenir vers vous, Rémi Lefebvre. Et au fond, derrière ce qu'a dit Emmanuel Anison, elle dit qu'il n'y a pas cet élan qu'il pouvait y avoir. J'ai posé la question tout à l'heure à Victor Delage. Est-ce que c'est raté ou pas dans l'esprit de ce que les premiers organisateurs ont voulu mettre en place ? Vous, vous dites quoi ? Vous dites raté ? Vous dites un peu pétard mouillé, qu'est-ce que vous dites ?
C'est difficile à dire. C'est pas ce qui était attendu. Effectivement, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est assez classique. Après, concrètement, faut bien voir si on le compare aux gilets jaunes. Les gilets jaunes, c'était un autre contexte. Et puis en plus, faut rappeler que ce qui avait déclenché au départ les gilets jaunes, c'était une taxe décidée par Édouard Philippe sur l'essence. Ouais. Et donc, ça a été très très mobilisateur, notamment dans les territoires. Là, il y a les mots d'ordre étaient beaucoup plus flous. Alors, ce qui peut fédérer, mais du coup, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas accroché parce que effectivement, il n'y avait pas de mot d'ordre très très précis. Et puis en plus, François Bayrou n'est plus sur le terrain institutionnel. La nomination de Sébastien Lecornu était intervenue hier soir, donc de manière très tardive. Par ailleurs, il faut aussi mentionner quelque chose de très important. Les mobilisations gilets jaunes avaient lieu le samedi. Là, ça a eu lieu un mercredi. Ouais. C'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup d'étudiants, à mon avis. Il y a beaucoup d'étudiants aussi parce que c'est la rentrée, il y a une période de, de flottement, c'est en partie la rentrée universitaire. Bon, c'est très difficile. En tout cas, ce que ça montre, c'est qu'il y a un climat de conflictualité latente, qu'il y a une très forte colère. Et franchement, moi, je ne me prononcerai pas. C'est-à-dire que, est-ce que ça peut pas être la première étape d'une dynamique protestataire nouvelle? Il y a le rendez-vous du 18 septembre, mais il y a surtout effectivement un climat politique très particulier.
Et qui peut prendre diverses formes, même si c'est pas la continuité d'un mouvement.
Voilà. Mais c'est vrai que pour l'instant, si on prend comme étalon les Gilets jaunes, on n'est plutôt pas sur quelque chose comparable aux Gilets jaunes. D'ailleurs, il y avait que 30% des gens qui étaient sur les listes de Bloc-Hontou qui avaient participé aux Gilets jaunes, selon l'étude de la Fondation Jean Jaurès.
Un mot, Victor Delage, avant de retourner au standard. Je reviens sur ce que disait à la fois Emmanuel Anison et aussi Rémi Lefebvre sur la jeunesse des manifestants et peut-être la différence. Ce qui est intéressant, c'est qu'en effet, les Gilets jaunes, c'était une taxe carbone liée à la voiture. Il faut avoir un certain âge pour avoir une voiture et il faut avoir un pouvoir d'achat pour avoir une voiture. Des gens qui habitaient dans des territoires un peu éloignés où les services publics s'étaient fortement éloignés ou avaient disparu. Donc là encore, il faut faire partie de ces populations qui ont fait ce qu'ils pouvaient pour avoir parfois un pavillon, pour y élever leurs enfants, etc. Donc quand on démarre, de toute façon, on n'est pas du tout sur la même sociologie qu'aujourd'hui, en fait.
Non, c'est extrêmement différent. D'ailleurs, quand vous regardez cette étude du politiste Antoine Bristiel, qui s'est intéressé à ce mouvement-là, ce que l'on voit, c'est que les préoccupations principales de ce mouvement, c'est avant tout les questions des inégalités et environnementales. Là où, quand on prend la population française, on est, vous l'avez rappelé, sur la problématique du pouvoir d'achat. Donc, c'est vrai qu'il y a une distorsion assez importante, d'autant plus que dans ce mouvement, ce sont des gens qui ont essentiellement voté au premier tour de l'élection présidentielle de 2022 pour Jean-Luc Mélenchon, environ 3/4, 10% pour Philippe Poutou et le reste des abstentionnistes, là où sur les Gilets jaunes, on était plus quand même sur un électorat droite, voire droite radicale, en tout cas pendant une longue période. Donc on est vraiment sur, je pense, deux mouvements extrêmement différents et, à mon avis, qui n'auront pas la même durée de vie.
Bonsoir Aurore.
Oui, bonsoir.
On est ravis de vous accueillir. Aurore, racontez-nous votre journée.
Alors, je veux juste rebondir sur ce que je viens d'entendre.
Allez-y.
J'entends écologie et je suis tout à fait d'accord, j'entends d'autres choses. Par contre, moi, je veux parler du pouvoir d'achat, je veux parler du travail, de l'emploi et de la réindustrialisation de la France, parce que ça aussi, ce sont des sujets qui ont amené des gens à venir dans la rue pour Bloc-Hontou. Donc, moi, si je vous appelle, c'est pour parler du site de Stellantis qui est à Poissy. Qui va fermer ou pas, on ne sait pas, et les travailleurs et les employés de cette entreprise ne le savent pas non plus, n'ont aucune information et l'apprennent uniquement par la presse, des choses qui ne sont même pas forcément véridiques. On a vraiment besoin d'avoir une transparence et d'un soutien en fait de l'entreprise et d'avoir tout simplement un dialogue rétabli avec des garanties de maintien de l'emploi pour tous les salariés et toutes les salariées. Un plan de reconversion digne, une co-construction de l'avenir avec les travailleurs et les travailleuses et la fin du mépris et du silence.
Vous avez
Parce que ça, c'est valable autant pour Stellantis et la direction que pour le gouvernement actuel.
Et j'entends ce que vous dites, Aurore, et je me demandais en fait jusqu'à quel point vous vous étiez sentie effectivement du coup chez vous dans cette manif avec les revendications que vous portiez vous aux côtés des autres. On parlait tout à l'heure des grandes différences, enfin pas différences, mais en tout cas des différentes revendications qui pouvaient y avoir, qui pouvaient être fiscales, qui pouvaient être climatiques, qui pouvaient être comme ce que vous portez, vous, autour d'un certain nombre de salariés. Est-ce que vous vous êtes senti chez vous dans ce cortège-là? Est-ce que vous avez senti que c'est de là que vous deviez être, en fait? Ou est-ce
Moi,
que c'est plus
que
compliqué?
Je devais être là en tant qu'habitante, je devais être là en tant que soutien social aux personnes qui travaillent dans cette entreprise et qui sont laissées complètement dans le mépris de leur direction, qui ne sont que des chiffres et qui ne sont absolument pas des humains et dont leur vie n'est pas prise en compte. Et c'est aussi tout un bassin d'emploi qui va être supprimé potentiellement et qui va donc ne plus offrir d'avenir aux habitants et aux habitantes des Yvelines.
Merci beaucoup pour votre témoignage, Aurore. On l'a entendu, on a entendu votre soutien à Stellantis. Donc moi, je trouve ça intéressant, encore une fois, Rémi Lefebvre, ce témoignage-là, et que j'ai presque envie de ramener au premier qu'on a entendu, en fait, où chacun essaye d'envoyer son propre message à l'intérieur de cette manif, ce qui à la fois donne peut-être un sentiment de chacun de cacophonie, on a du mal à savoir qui dit quoi. Mais ça parle beaucoup de ce pays quand même, quand chacun arrive avec sa propre pancarte au-dessus de sa tête.
Oui, ça traduit bien aussi que ces mobilisations peuvent agréger. Il y a tellement aujourd'hui de problématiques locales, de problématiques territoriales. On a telle diversification aussi des causes. Alors ça donne à ce mouvement un côté très disparate. Alors il faut aussi préciser que beaucoup de ces participants à ces mouvements, même s'ils viennent plutôt de la gauche, ont une forme de très grande distance à l'égard des partis politiques, des organisations traditionnelles. Il faut quand même rappeler, en sciences politiques, on parle de désintermédiation. C'est-à-dire que ce mouvement, il est né, il est sorti de la société, il est sorti des réseaux sociaux, hors de toute médiation syndicale, organisationnelle, même si ensuite, les syndicats et les partis ont repris le mouvement. Et du coup, finalement, ce côté très individualisé des remontées, en fait, et d'organisation de la mobilisation, fait, du coup, s'appuie, en fait, sur plein de petites causes. Le problème quand même, c'est que il faut donner une perspective politique à l'ensemble de ces causes. Et un mouvement social, ça peut pas être qu'une agrégation en fait de micro mobilisation. Et parfois, c'était le problème aussi des Gilets jaunes, c'est qu'il y a un problème de cohérence, de vision globale du monde. Effectivement, et ça, c'est le problème aujourd'hui de la politique, c'est que beaucoup de citoyens ne croient plus en fait à des visions intégrées, cohérentes. Les partis politiques ne jouent plus vraiment leur rôle de leur fonction idéologique, et donc on a effectivement cette espèce de parfois d'atomisation de plein de causes et plein de protestations hétérogènes.
Et aussi peut-être Victor Delage, on vit une époque, on l'a beaucoup entendu ces derniers temps, où de toute façon on ne vote plus pour le candidat de son choix, on vote en général pour le moins mauvais. Chacun des auditeurs qui participent à ce genre de mission le disent le plus souvent possible, ils n'arrivent pas à trouver celui qui pourra les représenter. Donc il y a cet instant-là, en fait, dans la rue, qui permet peut-être d'envoyer ce message-là, en fait, parce que en politique, on ne peut plus l'envoyer.
Oui, c'est certain qu'il y a une crise politique, une défiance à l'égard de nos responsables politiques qui est terrible. Alors, on annonçait des Français chauffés à blanc. Je crois qu'en réalité, on voit bien qu'il y a un terreau social qui est très fragile, mais on est plus sur une colère sourde. Et je crois, pour rebondir à ce qui vient d'être dit, que l'un des gros problèmes aujourd'hui, c'est que c'est ce qu'on pourrait qualifier d'une crise de la représentation. Vous avez beaucoup de Français dans les territoires qui ont le sentiment que les politiques, mais aussi que certains médias, les chaînes d'information continuent, etc., ne connaissent pas leur quotidien, leurs préoccupations. Et tout cela amène effectivement à une défiance extrêmement élevée. La question de la compétence aussi, c'est quelque chose qui est très prégnant. Pendant longtemps, les partis traditionnels, notamment, bénéficiaient de ce qu'on appelait le privilège de la compétence affirmée. Et ce que l'on voit aujourd'hui, c'est que dès lors qu'on interroge les Français sur qui a le plus de compétences aujourd'hui pour gouverner la France, ben, tout le monde est très bas. Il y a une vraie convergence à ce niveau-là.
Mais c'est intéressant parce que cet éparpillement, je ne sais pas si on appelle ça comme ça, éparpillement ou fragmentation, il se retrouve, enfin je veux dire, regardez, hier, avant-hier, au moment du vote de confiance, c'est 11 personnes qu'on a entendues pour 11 têtes de parti. Ça parle aussi, au fond, de cette grande dispersion, en fait, qui est, qu'on voit dans les manifs, qu'on entend dans les manifs, mais qu'on voit aussi, évidemment, au Parlement et partout, en fait.
C'est ça, on a le sentiment que c'est une cacophonie générale.
Pas que celle des manifs, mais aussi celle des politiques, mais aussi dans l'hémicycle, mais aussi
voilà.
Partout.
Voilà, et pour un citoyen qui regarde ça à travers sa télé, qui écoute la radio, très franchement, c'est extrêmement compliqué de s'y retrouver. Et je pense que ce qui se passe actuellement, cette rentrée politique, ne va rien arranger. Ouais. Parce que les Français, aujourd'hui, ce dont ils ont besoin et ce qu'ils revendiquent, c'est plus de proximité, plus de liens, plus de liens avec leurs élus locaux. Et vous pouvez être sûr que ce profil dans les prochains mois, pour mars 2026, les élections municipales, mais là encore, le grand risque, c'est qu'avec cette peut-être crise sociale, politique qui s'ouvre, et aussi tout ce qui se passe d'un point de vue politique, bah tout cela risque d'être assez largement effacé, que ces élections municipales passent vraiment sous le tapis et qu'on parle que de problématiques nationales.
On a sur WhatsApp le message de Margot Rémy Lefebvre qui dit il y a des gens qui n'ont pas été manifestés, parce que le mouvement a été récupéré par LFI. Il y a beaucoup d'auditeurs aussi, enfin quelques auditeurs aussi, qui nous demandent jusqu'à quel point ça fait grossir ou parfois dégonfler les cortèges et les manifestants. Est-ce qu'on peut répondre à cette question, Rémy Lefebvre, ou c'est peut-être un peu trop tôt ?
Ah, c'est évident. En plus, vous avez vu le discours du ministre de l'Intérieur. Depuis 15 jours, il ne cesse d'associer le mouvement à la France insoumise, à la gauche radicale, etc. Bon, donc très clairement, bon, le mouvement a été associé à la gauche. Donc effectivement, ça, dans un contexte de polarisation, ça amène aussi un certain nombre de citoyens à s'en détourner. Bon, par ailleurs, il y avait quand même aussi, on n'en a pas beaucoup parlé depuis le début de l'émission, mais il y a quand même la mémoire aussi de la violence en fait des mouvements précédents, hein, qui a beaucoup pesé sur les gilets jaunes. Les gilets jaunes, ça a été un pic de violence, répression, avec un cycle de violence du côté des manifestants, répression policière. Donc il y a aussi toute une partie des citoyens aujourd'hui qui ont peur en fait de participer à des actions, d'autant plus que quand un mot d'ordre comme bloquons tout est affiché, donc il laisse à penser qu'évidemment il y aura sans doute de la casse, etc. Donc, mais c'est vrai en tout cas que le caractère fédérateur du mouvement a été un peu entravé par sa politisation à gauche. C'est évident. Peut-être que aussi la France insoumise avait anticipé que le mouvement allait être faible et qu'elle a préféré le récupérer ou le préempter. Ça, c'est sûr que pour beaucoup de citoyens français, manifester, ça reste quand même quelque chose ancré dans la culture de gauche. Et donc les gens qui sont pas de gauche, eh ben ils sont plutôt réticents à utiliser ce répertoire d'action.
Tom est avec nous au standard. Bonsoir Tom. Tom. Est-ce qu'on a Tom ?
Oui, bonsoir.
Ah,
oui,
formidable. Bonsoir. On vous écoute. Vous êtes là, on vous écoute.
Oui, oui, bonsoir. Merci pour votre temps d'antenne rapide. Rapidement, non, j'ai pris l'émission en cours de route, donc j'ai pas entendu si quelqu'un d'autre avait le même avis que moi, pardon, sur la journée aujourd'hui. Juste, je tenais à dire, et je pense qu'on est une majorité silencieuse en France, on n'est pas opposé dans le fond à ces mouvements-là. Mais on est comment dire, c'est sur la forme plutôt que je pense qu'on est assez j'en parlais avec des amis aujourd'hui, c'est pas qu'on est opposé, c'est que nous en fait aujourd'hui on allait travailler comme une journée normale. On a pris le métro ce matin, on est allé travailler au bureau et en fait on a un sentiment aussi que nous finalement on restera toujours silencieux, parce que on se tait. On n'est pas en train de casser dans la rue. Alors je dis pas qu'il y avait que des casseurs et je suis même complètement d'accord avec certains des slogans. J'ai vu des drapeaux palestiniens et je trouve que c'est aussi une bonne chose. Mais même si ça reste une manif qui était à l'origine sociale, il y a quand même cette majorité silencieuse qu'on entend assez peu finalement. Moi je paye des impôts, un certain nombre d'impôts, la classe moyenne qui paye le plus sur mon impôt.
Mais du coup Tom, vous n'arrivez même pas à vous reconnaître effectivement à l'intérieur d'un mouvement social en fait, comme si vous aviez le sentiment que vous n'y trouviez pas votre place, en tout cas dans la journée d'aujourd'hui.
C'est ça, parce que déjà elle a été trop gangrénée par certains camps politiques. Je me définis pas de droite forcément, ni de gauche, mais ni du centre d'ailleurs. Et moi, j'écoute les avis et je comprends encore une fois ceux qui défient dans la rue aujourd'hui. Mais non, on s'y retrouve pas parce que nous, tout ce qu'on veut en fait, c'est travailler. On a des impôts à payer, on a des factures et on est encore une fois un peu mis de côté par les manifestants, par le gouvernement, par les médias aussi, qui parlent pas finalement de cette France qui ne défile jamais. On a pu manifester un peu quand on était plus jeune, quand on était au lycée, etc., mais aujourd'hui on manifeste plus et on n'est pas vraiment écouté.
Merci beaucoup pour votre témoignage Tom. Victor Delage, j'aimerais bien votre opinion sur le témoignage de Tom. Au fond, je vois les panneaux, il y a des trucs sur lesquels je suis évidemment d'accord. Et en même temps, dans ce cortège-là, je ne me sens pas chez moi. Et puis aujourd'hui, il a fallu que j'aille bosser.
Oui, en réalité, si vous reprenez le répertoire des modes de l'action collective théorisé par Charles Tilly, grand sociologue américain à la fin des années 1970, vous avez plusieurs modes d'action, des modes d'action légaux et illégaux. Mode d'action légaux, ça va être justement la manifestation, la grève, le fait de se sentir utile par le vote. Mais le problème, c'est que les Français, ils ont besoin de croire en la capacité d'induire sur la décision publique et même peut-être de la changer. À partir du moment où vous avez une frange de la population qui a le sentiment que quoi qu'il fasse, rien ne change, vous avez à voir effectivement, notamment les plus radicaux sur l'aile gauche de l'échiquier politique, qui vont passer à des modes d'action qu'on appelle illégaux, c'est-à-dire l'occupation, voire l'utilisation de certaines formes de violence, comme on a pu voir d'ailleurs aujourd'hui, même s'il faut bien le dire, hein, beaucoup de manifestations se sont passées de manière très pacifique.
Absolument.
Mais tout cela, toutes ces images qu'on voit défiler, peuvent écarter de ce type de manifestation beaucoup d'individus, même des individus qui partagent ce constat, ce diagnostic sur, sur une France qui va très mal.
Rémi Lefebvre, sur WhatsApp, on a Christophe qui dit « Beaucoup de jeunes dans la manifestation, donc effectivement à Strasbourg, est-ce qu'on n'est pas en train de voir se former une génération inquiète de l'évolution de la société qui souhaite s'investir dans une lutte ?» On a Vautier qui dit « Ce mouvement ressemblait peut-être à celui de 68 avec des jeunes politisés qui ne croient plus en l'avenir. » Enfin, tout le monde appuie sur les jeunes et c'est ce que vous avez remarqué aussi. Est-ce qu'il y a on a souvent cherché le ferment de quelque chose, en fait, avec les jeunes dans les manifs. Qu'est-ce qu'on en pense de ça, Rémi Lefebvre ?
Bah, ce qui est assez frappant, j'ai le souvenir qu'on avait beaucoup dit au début du mouvement sur les retraites que la jeunesse n'était pas du tout présente dans les cortèges, parce que les retraites, ils avaient du mal à se projeter en fait dans la perspective des retraites, même si les derniers cortèges de jeunes, derniers cortèges contre la loi sur les retraites, il y avait plus de jeunes. Je pense que peut-être que effectivement le côté un peu action directe, action immédiate, bloquons tout, c'est un slogan qui peut effectivement séduire des jeunes qui ne sont pas attirés du tout par les partis politiques et qui pensent en fait en gros que les élections ça sert plus à grand chose. Parce qu'on n'arrive pas à se faire entendre et que les manifestations traditionnelles ça marche pas, qu'on fait l'échec, parce que c'était un échec malgré une très forte mobilisation, de la mobilisation contre les retraites. Bon, par ailleurs effectivement on observe une politisation d'une partie de la jeunesse qu'on a très bien vu lors de la campagne législative de 2024, au moment du notamment à gauche avec le Nouveau Front Populaire, et aussi un regain de vote, notamment LFI, pour LFI d'une partie de la jeunesse. Alors attention, une partie de la jeunesse diplômée, parce que la jeunesse, comme disait Bourdieu ou Georges Duby, n'est qu'un mot, la jeunesse c'est pas un bloc homogène, il y a plein de jeunes en France, il y a des jeunes de métropole, il y a des jeunes qui font des études, et puis il y a des jeunes qui font pas d'études et qui sont pas forcément, qui ont pas forcément le même goût pour l'action collective. Donc, mais en tout cas c'est vrai que aujourd'hui l'angoisse environnementale, Parcoursup, la question aujourd'hui de la précarité étudiante, la question palestinienne, la question aujourd'hui aussi des nouvelles questions de société autour de la cause LGBT, etc. Tout ça en fait ça crée une dynamique de politisation d'une partie de la jeunesse qui finalement va se retrouver dans ces modes d'action, d'autant plus que c'est plus facile pour un jeune d'aller manifester le mercredi quand on a juste à sécher un cours et qu'on n'a pas d'activité professionnelle.
Et qu'on n'a pas effectivement un métro à prendre comme notre auditeur tout à l'heure. Avant de retourner au standard, retrouver Véronique qui nous attend, j'ai juste sous les yeux le message de Blondeau sur WhatsApp, Victor Delage, qui dit « Vous invitez ainsi sur la déconnexion entre le monde politique et le quotidien des Français, mais ne pensent-ils pas qu'ils ont aussi et surtout un manque de vision à long terme, et disons le mot, d'idéologie ?» Nos politiques, pas vous.
Oui, alors c'est sûr que la déconnexion, ça, elle est réelle, elle est documentée. Vous avez près des trois quarts des Français qui considèrent que les politiques ne connaissent pas du tout leur quotidien. Après, sur la structuration idéologique des partis.
En train de dire, en fait, désormais, c'est que des ventres mous et donc bonnet blanc, blanc bonnet, c'est ça que je lis derrière le.
Oui, c'est ça. Et puis, d'autant plus pour les partis traditionnels, j'ai envie de dire. Mm-hmm. Ça fait un moment que les LR, avant l'UMP, n'est pas au pouvoir. Le Parti Socialiste, c'est pareil. On n'a pas l'impression que derrière, il y ait une colonne vertébrale intellectuelle qui se soit formée. Là où, justement, quand vous regardez les partis plus radicaux, comme LFI, eux, ils ont un think tank en interne, là, ici, et quand vous les rencontrez, ils peuvent vous parler de tout et de rien. Vous les questionnez sur l'aéronautique, par exemple, ils auront plein de choses à vous dire.
Donc. C'est Véronique, je crois, qui est au standard. J'ai oublié votre prénom. Véronique, bonsoir. On vous écoute,
bonsoir,
Véronique.
C'est Véronique, donc, de Lyon.
À Lyon, voilà.
Voilà, donc j'étais à la manifestation ce midi. Je suis retraitée et c'est vrai que je vais un petit peu moins aux manifestations parce qu'une des dernières manifestations que j'avais fait, c'était pour les Gilets jaunes et c'était très violent. Après, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de casseurs et tout. Et du coup, j'osais plus y aller. Et puis hier, avec l'élection du Premier ministre, Bonnet-Blanc, comme vous venez de le dire, j'ai dit non, mais là, il faut que j'y aille, il faut que je sois comme les autres, que je sois solidaire. Moi, je suis retraitée, je suis une petite retraitée de la Poste. Je suis pas la plus malheureuse, mais au milieu du mois, c'est déjà très, très difficile pour vivre. En fait, je m'attendais à une marée humaine et au peuple. Je pensais que le peuple serait là, mais le peuple, vraiment, un peuple vraiment varié, plein de gens différents, plein d'âges différents. Il y avait quelques têtes blanches, mais j'étais quand même assez déçue, parce que d'abord, je pensais plus de monde, et de voir très peu d'anciens, comme si les anciens n'étaient pas concernés. Mmh. Donc, il y avait énormément de jeunes étudiants, il y avait aussi les anarchistes, il y avait un petit stand de la CGT. Bon, je suis allée les voir, ils m'ont dit, il n'y a pas de cortège prévu, donc j'étais un peu déboussolé, et les anarchistes se sont mis en ordre de marche, donc après on a été plein à les suivre, et en fait on a fait 300 mètres, et là on a été gazé très 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 violemment, et en fait le quartier est encerclé, ils ont énormément gazé, on n'a pas pu passer de l'autre côté du Rhône, on est resté tout dans le même quartier du 7e. Il y a des jeunes filles qui m'ont pris en charge, on est allé se réfugier dans une allée, elles m'ont donné du sérum fille et tout ça. Et il y avait des étudiantes en master, il y avait une jeune fille qui travaillait, il y avait un jeune homme qui était encore à l'école, je pense, un lycéen qui était très jeune. Mais en fait, j'ai été déçue. Je pensais que ça serait une marée humaine pour le pouvoir d'achat. Finalement, je regrette pas d'y être allée parce que du coup, moi, j'étais là pour soutenir ces jeunes étudiants. Mais j'ai été déçue. Je m'attendais pas à ça, en fait.
Merci, merci beaucoup pour votre témoignage, Véro. Rémi Lefebvre. Alors, il y a deux choses. Il y a aussi la police dans le message de Véro. On y viendra. Je voudrais d'abord qu'on s'arrête quand même sur, je pensais qu'il y aurait une marée humaine et qu'autour du pouvoir d'achat, on pouvait tous se retrouver. Qu'est-ce qui fait, à votre avis, que il n'y a pas de marée humaine et qu'autour du pouvoir d'achat, même ça, c'est compliqué parfois de se retrouver?
Parce que c'est très coûteux, l'action collective, et il y a beaucoup de gens qui sont totalement résignés. Aujourd'hui, ce qui domine dans la société, c'est la colère, la défiance à l'égard de la politique, mais très souvent aussi beaucoup de fatalisme et de résignation. Une enquête du Cevipof récente montre que, notamment depuis 2024 et la dissolution, ce qui progresse énormément dans la société, c'est le sentiment d'impuissance électorale. Les élections, ça sert plus à rien. Le sentiment d'impuissance politique, le pouvoir politique ne sert plus à rien, il n'a plus de marge de manœuvre, on ne croit plus à sa capacité à changer les choses. Et aussi, très clairement, troisième enseignement de cette enquête, un repli sur la sphère privée. C'est-à-dire, en fait, en somme, que la politique, c'est nul. Moi, je me replie sur ma sphère privée et j'essaie de trouver un peu de satisfaction dans ma vie personnelle, dans ma vie familiale. Donc, aujourd'hui, effectivement, il y a beaucoup de mécontentement dans la société, mais ce mécontentement ne se convertit pas en protestation parce que résignation, parce que aussi on n'y croit pas soi-même. Et puis aussi, ça m'a beaucoup frappé dans le très beau témoignage de Véronique, parce que il y a beaucoup de gens très différents. Elle dit, il n'y avait pas les anciens, même si elle dit qu'à la fin, il y a eu de la solidarité une fois la répression policière passée. Mais aujourd'hui, je pense qu'il y a un vrai problème, et ça c'est un problème tout particulier pour la gauche, du point de vue électoral, c'est qu'on a beaucoup de mal à créer de la solidarité entre des groupes sociaux qui sont fragmentés. Ils ont effectivement des problèmes économiques, mais ils sont pas tous les mêmes. Ouais. Tout à l'heure, il y avait un autre de vos interlocuteurs qui disait la France qui travaille, les gens qui travaillent. Ouais. C'est très difficile aujourd'hui de faire peuple. Véronique, elle a dit où il est le peuple. Mais le peuple, il n'existe plus aujourd'hui. Le peuple, c'est une agrégation de gens qui ont des intérêts sociaux assez hétérogènes.
Je voudrais vous soumettre ce message de Ben Victor Delage, parce que ça va dans le sens de ce qu'on vient d'entendre et ce que dit Rémi Lefebvre. Je suis CSP+, nous dit Ben. Il dit bonsoir Fabienne, bonsoir Ben. Je suis CSP+, je gagne très bien ma vie. Et je me sens concernée par cette journée, pour autant je suis résignée par la classe politique et qui s'est appropriée cette journée désormais. Pardon France Inter, dit-elle, on vous pardonne. Je n'écoute plus la radio, j'ai supprimé mes réseaux sociaux, excepté les messageries. Je me concentre sur l'essentiel, sur ma fille, sur mon bien-être, celui des autres et le respect d'autrui. Je vote à chaque élection, pour autant, et si les extrêmes passaient, je descendrais malgré tout dans la rue. J'aime bien ce message de Ben qui me semble très caractéristique aussi. J'ai lâché prise et je me concentre sur moi-même. Et au fond, c'est comme ça que je vis le mieux.
Comme pour beaucoup de Français. Ouais. Et puis quand vous avez un mouvement qui se veut social, mais qui s'intitule Bloquons tout, rien que d'un point de vue de la sémantique, ça pose des questions. On est vraiment sur une sémantique de la colère. La colère, c'est une passion négative. Et ça, il y a beaucoup de Français qui ont peur de cela. Beaucoup de Français qui sont restés chez eux aujourd'hui parce qu'ils avaient peur qu'il y ait des émeutes, de se faire gazer, etc. Je pense que la question de la politisation du mouvement, ça explique aussi ce semi-échec d'aujourd'hui, même si encore, il faut rester prudent. On verra ce qui se passe dans les prochains jours, prochaines semaines. Mais effectivement, quand vous avez un mouvement qui est récupéré, instrumentalisé par, d'un côté LFI, mais aussi les mouvements d'ultra-gauche, vous avez toute une frange de la population qui ne se reconnaît pas là-dedans. Et puis, dernier point, parce que vous parliez de la perforation ou non de ce mouvement, notamment dans les petites villes, je rappellerai un chiffre, c'est qu'aux dernières élections législatives, au premier tour, vous avez 10,7 millions de personnes qui ont voté pour le Rassemblement National sur 33 millions de votants, donc 1 sur 3 quasiment. Or, sur ces 10,7 millions qui sont allés pour le RN, vous en avez 70% qui viennent des petites villes. Ouais. Donc c'est aussi pour ça que je pense que ça n'a pas vraiment pris dans les petites villes, parce qu'à partir du moment où vous avez un mouvement qui est récupéré par la
qui avait effectivement commencé plutôt souverainiste, mais qui a effectivement beaucoup évolué.
Donc je pense qu'on
a beaucoup
derrière. Tourné le dos aussi par rapport à cette récupération politique.
Il nous reste peu de temps, Ismaël, mais on est content de vous entendre. Allez-y, bonsoir.
Bonsoir.
On vous écoute.
Du coup, moi, voilà, en gros, pareil, enfin, comment dire, voilà, en gros, quels sont les outils qu'on a aujourd'hui pour faire changer les choses, pour faire changer les décisions, parce qu'on le voit, que ce soit depuis les Gilets jaunes ou non, en gros, il y a beau avoir des manifestations, des grèves, il y a, enfin, voilà, les, on va dire qu'il n'y a pas de prise de considération de ces mouvements-là. Donc en fait, je rejoins ce qu'a dit l'expert. Enfin, désolé, j'ai pas votre nom, mais voilà, je rejoins ce qu'il dit, c'est que derrière, ben, on se détache, on ne croit plus aux politiciens, on devient égoïste. Du coup, aujourd'hui, par exemple, ben, moi, je suis parti bosser. J'ai des amis qui ont manifesté, mais moi, je suis obligé d'aller bosser. Voilà.
Parce qu'il faut bosser.
Parce que moi, je trouve que voilà, c'est un coup d'épée dans l'eau, quoi. Aujourd'hui. On est dans une démocratie et pourtant les outils qu'on a pour faire changer les choses, ben elles sont pas considérées. Quoi.
Ismaël, je vous remercie beaucoup. Pardon de vous presser. Rémi Lefebvre, je vais vous laisser conclure après le témoignage d'Ismaël, s'il vous plaît, très vite.
Bah, ça illustre, je pense, ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire le manque de prise, l'idée que les choses sont jouées. Finalement, le jeu électoral, il devient de plus en plus confus. Il produit pas des verdicts clairs. Il produit beaucoup de défiance. On vote contre plus que pour. On est dans une démocratie à la fois minoritaire et négative. Et puis l'action collective, c'est très compliqué aussi parce que le peuple, enfin le pouvoir n'entend pas le peuple, parce que c'est difficile de c'est coûteux en termes de sacrifice personnel. Voilà, on est dans une crise de la représentation, dans une crise politique, dans une crise démocratique très très profonde, où finalement à la fois les modes d'action traditionnels sont un peu épuisés, et puis en même temps on a du mal à inventer des formes d'action collective nouvelles, d'où beaucoup de aussi de passivité, de résignation, ce qui ne veut pas dire de la dépolitisation. Ismaël, il est pas du tout, il se sent concerné, il dit même, il se reproche lui-même d'être égoïste, ça veut dire qu'il a bien conscience. Donc il y a une appétit politique en tout cas.
On va rester sur l'appétit politique et on reprendra cette conversation de toute façon demain, même heure, même endroit. Merci beaucoup les amis, merci à tous.